La vie d'un explorateur doit être passionnante. Et on pourrait penser que celui dont les moyens sont illimités et qui a le privilège d'expérimenter absolument tout ce qui lui fait plaisir sera comblé, ivre de bonheur. Eh bien non. Dieu a béni Salomon plus que tout autre homme, ce qui lui a permis d'étudier les sciences et les lois naturelles, la sagesse et la philosophie, le plaisir et le matérialisme, l'existentialisme, le fatalisme et la religion. Bien entendu, il cherche aussi à savoir si l'argent satisfait le cœur de l'homme. De tous les grands que ce monde a portés, il est incontestablement l'un des plus fortunés. Mais après toutes ces expérimentations, il constate que rien ne permet d'échapper aux misères propres à la condition humaine. Le dénominateur commun à toutes ces enquêtes est que tout est dérisoire et ne vaut pas mieux que de courir après le vent. Suite à ce contraste désolant, Salomon recommande à l'homme de se contenter des quelques instants de bonheur que Dieu lui accorde ici et là et de les accepter avec reconnaissance. Mon pèlerinage sur terre est une phase cruciale de mon existence éternelle parce que c'est ici-bas que je prépare mon avenir dans l'au-delà. Ma vie présente suscite donc des interrogations sérieuses comme « Comment savoir ce qui est bon et bien pour l'homme ?» C'est ce que le prédicateur va maintenant examiner dans le domaine de la moralité. Je commence à lire le chapitre 7 de l'Ecclésiaste. « Mieux vaut un bon renom qu'un parfum raffiné, et le jour de la mort est préférable à celui de sa naissance. » Ecclésiaste 7, verset 1. Voilà bien une déclaration coup de poing. En hébreu, renom et parfum ont la même racine. C'est comme si en français on disait « Mieux vaut être en bonne odeur que de répandre une bonne odeur ». Le prédicateur dit donc que la renommée qui demeure après son départ de ce monde est préférable à l'odeur passagère du parfum. Mais pourquoi ne pas avoir les deux ? Dans son évangile, Matthieu raconte l'histoire de cette femme qui enduit les pieds de Jésus avec de la myrrhe. Elle est alors vivement critiquée par les disciples, mais le Seigneur prend sa défense et dit « Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où cette bonne nouvelle sera annoncée, on racontera aussi, en souvenir d'elle, ce qu'elle vient de faire. » Matthieu 26, verset 13. Le jour de la mort, on laisse à peu près tout derrière soi, y compris la souffrance et les déceptions. Par contre, il reste la réputation auprès de tous ceux qui vous ont connu de près ou de loin. Le prédicateur enseigne d'une manière voilée qu'un repos est réservé aux fidèles du Seigneur décédé. Bien que prometteuse, la naissance contient aussi le potentiel d'une vie de folie gâchée, car consacré à courir après du vent. À ce sujet, et assez curieusement, quelques peuples antiques faisaient grand deuil à la naissance des enfants et se réjouissaient au moment de la mort. De ce nombre sont les Thraces d'origine indo-germanique qui habitaient les Balkans. Leur empire fut conquis par les Grecs puis les Romains. Au 1er siècle, les Thracies est une province romaine. Je continue le texte. « Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans celle où l'on festoie, car celle-là nous rappelle quelle est la fin de tout homme, et il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est en vie. » Ecclésiaste 7, verset 2. Un proverbe arabe dit « Si tu entends des complaintes funèbres, entre là. Si tu es invité à un festin, ne passe pas le seuil. » Le patriarche Job se rendait compte des dangers moraux auxquels s'exposent ceux qui font la fête. Job 1, verset 5. Avez-vous remarqué combien les gens se conduisent avec dignité les uns par rapport aux autres afin de faire bonne impression et pour dire que tout va bien, comme les Flamandes que chantait Jacques Brel? Les gens bien assistent à des causeries sur le réchauffement de la planète et sur les problèmes des banlieues. Quand ils vont aux funérailles d'un ami ou d'une connaissance, ils écoutent les commentaires et les louanges souvent hypocrites concernant le défunt, espérant qu'on en dira autant d'eux. Un deuil a du bon parce que c'est la meilleure occasion de réfléchir sur la brièveté de l'existence et de considérer sa propre mortalité dans le but de s'assurer qu'on est en règle avec son Créateur. Par ailleurs, assister aux funérailles de quelqu'un dont la vie fut exemplaire est une expérience enrichissante. Celui qui a mené une vie morale et qui a contribué au bien-être de ses citoyens mérite d'être imité parce qu'il est louable d'être un bon voisin, de ne pas offenser son prochain ni de mettre ses pieds dans un nid de guêpe en se mêlant de ses affaires. Je continue. Mieux vaut la tristesse que le rire, car avec un visage triste, le cœur est rendu meilleur. Ecclésiaste 7, verset 3. Cette tristesse est due au spectacle des vies futiles que mènent la plupart des gens, ainsi qu'aux tragédies humaines. Le visage triste exprime le sérieux de la mort et une remise en question personnelle devant son Créateur. Dans sa célèbre prière, Moïse a demandé à Dieu « Apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. » Psaume 90, verset 12. Le prédicateur condamne la frivolité et la recherche des plaisirs comme moyen de fuir la réalité de notre condition misérable au lieu de l'assumer et d'en tirer les conséquences qui s'imposent. Il existe une fuite moderne devant la mort, qui ne lui laisse aucune place, ni dans la pensée populaire, ni dans les conversations polies. On fait tout pour occulter la mort. Après la cérémonie religieuse, on bavarde pour oublier le cercueil et se féliciter d'être encore en vie. Après le cimetière, on vous sert un petit repas pour fermer la parenthèse funèbre. Ces petites mises en scène évitent toute réflexion sérieuse sur la mortalité, le jugement et l'avenir et l'au-delà. Je continue le texte. L'attention du sage se porte au lieu où l'on pleure un deuil, celle de l'insensé au lieu où l'on se livre à la joie. Ecclésiaste 7, verset 4. Lors d'une messe funéraire, il y a toujours des gens qui s'approchent de l'église, mais bifurquent pour finir dans le bistrot d'en face, car ils ont, semble-t-il, pour devise « ni Dieu, ni diable ». Ils se retrouvent et blaguent pour éviter d'avoir le cafard, de réfléchir et surtout pour oublier qu'un jour, le glas sonnera pour eux. Ils se disent « s'il y a un Dieu, j'ai mes chances, je n'ai jamais fait le mal » et je contribue à la société. Le sage, lui, n'a pas peur d'aller dans la maison de deuil, car il est très conscient de la brièveté de la vie. Il sait consoler ceux qui pleurent, et quand il les quitte, son cœur reste avec eux. Toute sage vision de l'existence doit regarder la mort en face et l'intégrer dans sa conception de la vie. Si le prédicateur regarde sa fin sans crainte, c'est parce qu'il ne l'envisage pas comme un événement irrationnel et brutal, mais plutôt comme un seuil qu'on franchit et qui s'ouvre sur une dimension cachée de la vie. Je continue. Mieux vaut écouter les reproches d'un homme sage qu'écouter la chanson des insensés, car les rires de l'insensé sont comme le crépitement des épines sous une marmite. Cela aussi est dérisoire. Ecclésiaste 7, les versets 5 et 6. La censure du sage redresse ce qui est courbé et elle a une influence positive sur ceux qui veulent bien l'écouter. Psaume 141, verset 5. À l'opposé, les réjouissances frivoles et les plaisanteries gravuleuses sont creuses. Elles provoquent des éclats de rire et des applaudissements bruyants, mais qui sont de courte durée, qui ne donnent aucune chaleur et ne procurent aucun bénéfice à ceux qui les écoutent. Je continue. L'oppression rend le sage insensé et les cadeaux lui font perdre la tête. Ecclésiaste 7, verset 7. Ceux qui ont une position d'autorité sont sur une pente glissante, Même une personne honorable peut se laisser griser par le pouvoir, agir en insensé, opprimer les petites gens et accepter les pots de vin. Proverbe 17, verset 8. Je continue. Mieux vaut l'aboutissement d'une entreprise que son début. Mieux vaut un esprit patient que prétentieux. Ecclésiaste 7, verset 8. Tout projet a une finalité incertaine. Il vaut donc mieux œuvrer avec patience plutôt que de faire le malin et dire que ce sera un jeune enfant. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je continue. Ne t'irrite pas trop vite, car c'est dans le cœur des insensés que la colère est lit de missiles. Ecclésiaste 7, verset 9, comparez Job 5, verset 2 et Jacques, chapitre 1er, verset 20. Les présomptueux sont des insensés, car lorsqu'ils rencontrent des imprévus, ils perdent leur sang-froid. Je continue le texte. Garde-toi de dire, comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui? Car ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question. Ecclésiaste 7, verset 10. Il n'est pas rare d'entendre des anciens dire que de leur temps, les choses étaient mieux. Mais chaque époque a ses lumières et ses ombres. La sagesse me dicte d'accepter, sans me plaindre, les circonstances dans lesquelles Dieu m'a placé. C'est ici et maintenant que je dois accomplir la tâche qu'il a préparée d'avance pour moi. Jérôme, un père et un docteur de l'Église, a dit « C'est nous qui faisons le bon ou le mauvais siècle, selon que nous sommes vertueux ou vicieux. » Je continue le texte. La sagesse est bonne tout autant qu'un héritage, car elle profite à ceux qui voient le soleil. La protection qu'offre la sagesse est comme celle que procure l'argent, mais la sagesse a un avantage, elle fait vivre ceux qui la possèdent. Ecclésiaste 7, les versets 11 et 12. Un héritage est toujours bon à prendre parce que l'argent met à l'abri de la pauvreté. Cependant, la sagesse a davantage de valeur car elle permet d'éviter les écueils de la vie, de devenir prospère et de trouver un certain bonheur. Proverbe 3, verset 18. Dans l'Ancien Testament, la sagesse est vue comme une source de vie. Et l'apôtre Paul écrit que, pour nous, Jésus a été fait sagesse. 1 Corinthiens 1, verset 30. Je continue. Considère l'œuvre de Dieu. Qui donc pourra redresser ce qui a tordu? Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un et l'autre, si bien que l'homme ne peut rien découvrir de ce qui doit lui arriver. Ecclésiaste 7, les versets 13 et 14. Ce qui est tordu, ce sont toutes les calamités qui affligent le genre humain depuis la malédiction prononcée sur lui et qui a engendré sa triste condition. Que ce soit les bienfaits ou les tragédies, au final, tout provient du Dieu souverain. Job 2, verset 10, Lamentations, chapitre 3, verset 38. Le prédicateur renouvelle son appel à savourer le bonheur quand il est présent et à mettre à profit les temps d'épreuve pour se mettre en règle avec Dieu. Comme il envoie tour à tour bonheur et malheur, il rend l'avenir imprévisible. Personne, même pas le sage, peut savoir si la prochaine étape de sa vie sera une belle aubaine ou une tuile qui lui tombera sur la tête, car les voies de Dieu sont impénétrables. Je continue. J'ai tout vu au cours de ma vaine existence. Ici, un juste périt malgré sa droiture. Là, un méchant prolonge ses jours malgré sa perversité. Ne sois pas juste outre mesure et ne sois pas trop sage. Pourquoi te faire du mal? Ne sois pas non plus méchant, outre mesure, et ne sois pas insensé. Pourquoi voudrais-tu mourir avant ton heure? Tu ferais bien de prendre garde à l'un comme à l'autre. Oui, celui qui révère Dieu suivra ces deux conseils. Ecclésiaste 7, les versets 15 à 18, comparé Proverbe 10, verset 27. Ici commence la section la plus surprenante du livre. Le prédicateur attaque l'orgueil moral du légalisme qui prétend faire de ses critères moraux des absolus de la vertu, des actes de justice. Dans la mesure où la perfection n'est pas de ce monde, il faut vivre avec ce qui est tordu et parfois sacrifier à la folie en acceptant d'agir de manière imparfaite, de faire des erreurs, tolérer des anomalies, rechercher des compromis. Sous le soleil, la règle pour tous est une combinaison de misère et de petits bonheurs de façon tout à fait imprévisible. En effet, une vie juste n'entraîne pas forcément une longue et heureuse vieillesse, et vice-versa. L'assassin peut finir ses jours tranquillement, comme ce fut le cas par exemple de ce tortionnaire cambodgien surnommé « le boucher » qui est décédé paisiblement dans sa 80e année alors qu'il a pris une part active dans la mort de 2 millions de personnes. Le prédicateur s'élève contre la propre justice de ceux qui se croient supérieurs aux autres. Le légaliste, qui est droit comme un « i » et qui suit sa religion à la lettre, ne s'assure pas la bénédiction de Dieu parce que son cœur, le vôtre ou le mien, est naturellement mauvais. Ecclésiaste 7, verset 20. Mais ce n'est évidemment pas une excuse pour se laisser aller au mal qui, tôt ou tard, sera jugé. Ecclésiaste 3, 17, 8, 12 et 13. L'exhortation du prédicateur est donc de révérer Dieu, car cette attitude permet d'éviter les deux extrêmes du relâchement moral et de la propre justice. Je continue. La sagesse se montre plus fort en faveur du sage que 10 capitaines qui défendent une ville. Il n'y a sur terre aucun homme juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher. Ne prête pas attention à tout ce qu'on dit, et si ton serviteur te dénigre, n'écoute pas, car tu sais bien qu'à plusieurs reprises, il t'est arrivé à toi aussi de dénigrer les autres. Ecclésiaste 7, 19 à 22. La sagesse rend l'homme fort. C'est la contrepartie de sa faiblesse due à sa mauvaise nature. L'apôtre Paul cite les paroles du prédicateur quand il écrit aux Romains. L'Écriture le dit, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. » Romains 3, 10, comparé psaume 133, 143, 2, Job 9, 2, Proverbe 20, 9 et 1 roi, chapitre 8, verset 46. Puisque ni vous ni moi ne sommes justes, soyons indulgents les uns envers les autres. Si on te juge un peu sévèrement, ne t'en préoccupe pas trop. Il faut savoir tout entendre sans se formaliser et songer à toutes ces paroles vaines que tu as toi-même prononcées. Jacques 3, versets 1 et 2. Je continue. Tout cela, j'ai essayé de le comprendre par la sagesse en me disant « Je veux acquérir la sagesse, mais elle reste loin de moi. La compréhension des choses est hors de ma portée. Elle est profonde, beaucoup trop profonde pour qu'on puisse l'atteindre. » Ecclésiaste 7, les versets 23 et 24. Même le sage ne comprend pas l'œuvre de Dieu parce que ses voies sont impénétrables. Je continue. Mais je me suis appliqué de tout mon cœur à apprendre, à explorer et à rechercher la sagesse et la raison et à comprendre combien le mal est stupide et combien la stupidité est folie. Ecclésiaste 7, verset 25. La sagesse de Dieu nous dépasse, mais elle est descendue jusqu'à nous sous forme de loi morale, puis de Jésus-Christ. Job résume ce que l'Éternel demande à l'homme quand il dit « Révérez le Seigneur, voilà la vraie sagesse. Se détourner du mal, voilà l'intelligence. » Job 28, 28. Je continue. J'ai découvert quelque chose de plus amer que la mort. C'est une femme dont le cœur est un guet-apens et un piège et dont les bras sont des chaînes. Celui qui jouit de la faveur de Dieu échappera à ses griffes, mais le pécheur s'y laissera prendre. Ecclésiaste 7, verset 26. Il s'agit de dame folie, adultère et séductrice, telle qu'elle est décrite dans le livre des Proverbes, Proverbe 5, versets 2 à 5, 6, 24 à 26, 7, 5, 21, 22, 22, verset 14. C'est la pire des calamités pour l'homme. Je continue. Voici à quelle conclusion je suis parvenu, dit le prédicateur. Après avoir examiné les choses une à une pour me faire une opinion. D'ailleurs, je cherche encore et je n'ai pas trouvé. J'ai bien trouvé un homme sur mille qui révère Dieu, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Ecclésiaste 7, 27 et 28. L'auteur utilise une figure de style poétique, parallélisme complémentaire, par laquelle les mots « homme » et « femme » sont des termes génériques représentant toute l'humanité. Il dit donc que les êtres humains qui obéissent à Dieu sont à la fois rares et quasi inexistants. Je finis de lire le chapitre 7 de l'Ecclésiaste. Voilà la seule chose que j'ai trouvée. Dieu a fait les êtres humains droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de complications. Ecclésiaste 7, verset 29. Le prédicateur fait allusion à Adam et Ève pour expliquer la faillite de l'homme. Nos premiers parents ont été créés parfaits à l'image de Dieu, mais par leur désobéissance, ils se sont rendus coupables et responsables de la condition humaine misérable et méprisable. Nous arrivons au chapitre 8, qui est un discours sur la sagesse, bien qu'elle soit fort utile pour éviter les écueils sous le soleil. Elle ne permet pas de comprendre les voies de Dieu. Je commence à lire ce nouveau chapitre, qui est comparable au sage, qui sait analyser une situation. La sagesse d'un homme illumine son visage et fait disparaître la sévérité de sa face. Ecclésiaste 8, verset 1er. L'homme sage sait évaluer une situation et comment agir, et il le fait avec un esprit de douceur. Sous le régime actuel de la grâce, la foi en Jésus-Christ, qui permet à quelqu'un de manifester l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté et les autres vertus chrétiennes. Galates 5, 22. Je continue. Obéir aux ordres du roi est, à cause du serment prêté devant Dieu, ne te hâte pas de lui retirer ton allégeance. Ne persiste pas dans une mauvaise cause, car le roi fera ce qu'il lui plaira. En effet, sa parole est souveraine. Qui oserait lui dire « Pourquoi fais-tu cela ?» Ecclésiaste 8, versets 2 à 4. Comparez Proverbe 16, 14 et Proverbe 19, verset 12. Dans l'ancien Israël, le peuple prête serment de fidélité au roi en prenant Dieu à témoin. De Samuel 21, verset 7, 1 roi 2, verset 43, 2 rois 11, verset 17, 1 chronique 11, 3 et 29, 24. Même si un conseiller n'approuve pas les décisions du souverain, il est tenu de les exécuter. S'il est sage, il garde la tête froide et évite de démissionner ou de se révolter. Proverbe 24, verset 21. Seuls les prophètes de l'Éternel tiennent tête au mauvais roi. Par contre, dans les grands empires d'Orient, nul n'ose jamais contrarier le monarque qui jouit donc d'une liberté absolue. C'est un peu ce que les jeunes aujourd'hui recherchent. Un jour, j'ai demandé à un gothique « Pourquoi t'habilles-tu tout en noir ?» Il m'a répondu « Je veux être libre et faire comme bon me semble. » J'ai poursuivi « Et si tu t'habillais autrement, est-ce que tes amis t'accepteraient ?» Il a hésité, puis il a dit « Je ne crois pas. » Alors je lui ai dit « Finalement, tu n'es pas aussi libre que tu penses, alors que moi, je peux m'accoutrer comme je veux. Je ne suis pas obligé de porter le même uniforme tous les jours. Nous sommes pourtant tous deux anticonformistes. Nous allons à contre-courant, toi en t'habillant en noir, et moi en ayant accepté Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur. Si tu veux la vraie liberté, soumets-toi à lui. » Jésus a dit, « Si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Jean 8, verset 36. Je continue le texte. Celui qui s'en tient aux ordres du roi ne se mettra pas dans une mauvaise situation, et le sage saura discerner en lui-même le moment opportun et le temps de jugement. Pour toute chose, en effet, il y a un moment opportun et un temps de jugement alors que le peuple est dans la misère parce qu'il ne sait pas ce qui arrivera. et qui pourrait lui annoncer comment cela arrivera. Ecclésiaste 8, les versets 5 à 7. Le prédicateur a déjà dit que Dieu jugera le juste et l'injuste, car pour chaque chose et pour chaque acte, il y a un temps pour le jugement. Ecclésiaste 3, verset 17. Le sage reste dans ses fonctions et se soumet à son souverain despotique tout en espérant qu'un changement aura lieu un jour. Mais en attendant, il doit prendre son mal en patience parce qu'il ne peut pas savoir quand Dieu interviendra. Et puis, même celui qui prépare bien un coup d'État reste à la merci d'un événement fâcheux qui, au dernier moment, peut tout faire capoter. Telles sont les incertitudes sous le soleil.